Bonsoir, chère Lucille.
Bonsoir, Arnaud.
Double entrée, si je puis dire, ce soir, dans ce petit salon, les ors de la littérature.
Oui, puisque je vais parler de ce que c'est, de ce que ça veut dire qu'entrer à la Pléiade. Et à l'occasion d'une entrée, il y a quelques semaines, un nouvel auteur est entré à la Pléiade,
vous
Jack
dites,
London.
Ah, vous dites « Ah, dans la Pléiade ?» Moi, je dis toujours « dans la Pléiade
oui. ».
Est-ce que c'est une faute que je fais, alors ?
Non, mais c'est
pardon,
intéressant.
J'interromps tout de suite.
Parce que c'est, du coup,
vous allez
dans la bibliothèque de la Pléiade, parce que c'est une bibliothèque.
Ah, pardon, je vous ai interrompu. Je suis absolument la vraie.
Donc, Jack London entre dans la Pléiade. On va en reparler en plus tout à l'heure de Jack London pour une autre sortie en poche, donc complètement à l'autre bout de la librairie. L'occasion de se demander ce que ça veut dire pour un auteur donc d'entrer dans cette collection réputée luxueuse et qui choisit avec soin chaque année 3 ou 4 nouveaux titres seulement. 2 volumes donc de l'œuvre de Jack London. C'est pas l'œuvre complète, mais il y a un certain nombre de ses romans et de ses nouvelles ont paru. Donc, il y a Cro-Blanc, il y a L'appel du monde sauvage. Alors, j'ai mis un petit peu de temps à me rendre compte que c'était l'appel de la forêt, en fait, ce roman que j'avais lu quand j'étais adolescente, qui est devenu L'appel du monde sauvage, puisqu'il y a des nouvelles traductions, et beaucoup aussi de nouvelles apparemment très peu lues en France, donc qu'on peut découvrir grâce à cette nouvelle édition. Alors, revenons un instant sur l'histoire de la Pléiade, qui a été créée en 1931 par Jacques Schifrin, qui la dirige pendant des années, même lorsque la collection passe sous la coupe de Gallimard, très vite, en fait, en 1933. Coupe sous laquelle elle est toujours aujourd'hui. À l'époque, en 32, des affiches publicitaires paraissent dans la ville vantant les mérites pratiques de ses livres. Je cite « Vous pouvez avoir tout Racine dans votre poche » avec une sorte de gravure représentant un étudiant. La Pléiade est alors considérée comme un moyen d'avoir toute l'œuvre d'un auteur à portée de main. Schifrin pensait apparemment sincèrement s'adresser à un public étudiant. Tout ça est assez drôle quand on considère aujourd'hui que la Pléiade est un objet de luxe. C'est un livre cher avec son papier Bible, son cuir de mouton néo-zélandais, la tranche en or et puis cet appareil critique fort développé, pas franchement dans le budget d'un étudiant moyen. La Pléiade, c'est plutôt le livre bourgeois par excellence et j'en reviens à ce que c'est que d'entrer dans cette bibliothèque. On dit la bibliothèque de la Pléiade. C'est assez significatif de 2 choses. D'une part, l'importance de la matérialité du livre et d'autre part, la sélection qui préside à la constitution d'une bibliothèque. Quand on interroge Gallimard à ce sujet, cette question de la sélection reste assez mystérieuse. On ne sait pas vraiment quels critères sont retenus. Hugues Pradier, qui la dirige depuis 1996, dit seulement et assez vaguement que les œuvres retenues sont des œuvres pérennes, je cite, mais qui décident de la pérennité d'une œuvre. Alors Raymond Queneau, qui a dirigé la collection pendant des années, avait pour définir le catalogue envoyé à 200 auteurs en 1949 la question suivante : quels sont les 100 ouvrages que tout honnête homme se devrait d'avoir lu ? Apparemment, beaucoup d'auteurs avaient répondu en citant leurs propres ouvrages. Aujourd'hui, Jack London donc entre au catalogue. Il incarne 2 des évolutions majeures de la sélection : de plus en plus d'écrivains étrangers, y compris contemporains, et de plus en plus de littérature populaire ou du moins considérée comme telle. Pour autant, quand on regarde les titres qui sont les plus vendus aujourd'hui par la Pléiade, il y a Saint-Exupéry, Proust, Camus, Verlaine, Rimbaud, Malraux. C'est les 6 facettes d'une littérature bien marquée. Donc on voit que cette collection représente une sorte de vulgate de la littérature française qui reste très classique. Et pour vous, que représente la bibliothèque de la Pléiade ?
Alors si on a bien compris, la Pléiade c'est le vrai livre de poche en fait. On s'est trompé depuis toutes ces années. Pour vous, Elisabeth Philippe, que représente la Pléiade ?
Non, mais je repense à Aurélien Bélanger. Il me disait qu'effectivement, l'écrivain Aurélien Bélanger, pour lui, la Pléiade, c'était un livre de poche. C'était formidable, très, très maniable, très malléable. Il faut quand même avoir les...
Il est très chic, Aurélien Bélanger.
Il est très, très chic, voilà. C'est difficile de dire ce que ça représente aujourd'hui. Je pense que les repères ont peut-être été un peu brouillés l'an passé quand Jean d'Ormesson est entré.
Mais il a répondu aux questions de Queneau.
Voilà.
Faut-il publier moi.
Énorme succès pour la collection de la Pléiade. Jamais autant vendu un exemplaire. Et du coup, là, il pense à un deuxième volume de ses œuvres. Si, c'est vrai.
Faut dire que je crois que la Pléiade représente 10% du chiffre d'affaires de Gallimard. Donc, c'est pas rien. Donc, effectivement, on peut peut-être mieux comprendre l'entrée de Jean d'Ormesson, gros vendeur s'il en est. Et pour préparer cette émission, je relisais l'article qu'Ariane Chemin avait consacré, justement, la série qu'elle avait consacrée à Jean d'Ormesson, notamment le dernier article de cette série, c'était les dessous de l'entrée.
Ah oui, c'était formidable.
Pléiade, voilà. Et il y a cette phrase de Jean d'Ormesson. La Pléiade n'est pas faite pour être lue, elle est faite pour être là. Mmh. Alors, par-delà le bon mot, je pense que ça résume finalement assez bien ce qu'est la Pléiade. C'est très décoratif, c'est très joli dans une bibliothèque. Au-delà de ça, l'appareil critique, effectivement, je pense pour un public d'universitaire ou de critique, c'est extrêmement intéressant. Je me souviens que notamment celui sur Virginia Woolf, et il y avait de nouvelles traductions, c'était passionnant. Donc, Mais voilà, c'est vrai que voilà, il y a Jean d'Ormesson, il y a Virginia Woolf, on sait pas bien. Et ce que disait Lucille, ce que rappelait Lucille, c'est qu'on connaît pas forcément les raisons qui président à l'entrée d'un auteur ou d'un autre dans cette collection.
À ce propos, c'est très étonnant quand on cherche sur le net, il y a énormément de blogs de passionnés de la Pléiade qui ont un rapport très répulsif attiré à la collection, avec des pages et des pages de réflexions sur quelles vont être les prochaines sorties et de tractations. Enfin, c'est assez étonnant.
Est-ce que les bookmakers anglais ont ça dans leur...
C'est possible.
C'est possible, hein, Elisabeth Franck-Dumas.
Vous parlez de bookmaker anglais, justement, moi ce que j'adore avec la Pléiade, c'est que c'est vraiment cette particularité hyper française du livre, à la fois de cette espèce de luxe critique, de cette richesse critique, qui peut être inégale d'ailleurs selon les éditions de la Pléiade, et puis ce luxe matériel aussi. À mon avis, on est un des seuls pays au monde, l'est-on encore d'ailleurs, où le livre est un marqueur social, où avoir une bibliothèque et où avoir un livre, où avoir ça chez soi. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Est-ce que les chiffres ont eu tendance à rester aussi haut qu'ils l'étaient?
C'est assez stable.
Voilà, je trouve ça fascinant. Je pense qu'on est le seul pays au monde à avoir ça. Je pense que la Pléiade, ça s'adresse à plein de publics différents. Il y a ceux qui lisent ça, en effet, comme on lit un livre de poche. Enfin, je dirais un lecteur assez cultivé qui a envie de, disons, lire une note sur trois en bas de page et de parcourir l'introduction rapidement. C'est formidable pour les universitaires. Si ceux qui ont envie de s'attaquer à l'Ulysse de Joyce, je recommande vivement l'édition de la Pléiade qui est plus qu'indispensable. Et puis il y a aussi ceux qui ont ça parce que c'est joli chez eux, qui en achètent deux à Noël parce qu'ils ont l'agenda. Certains d'entre nous ont eu la chance d'avoir un oncle ou un membre de la famille qui chaque année à Noël ouvrait des Pléiades, offrait des Pléiades qu'on se gardait bien d'ouvrir, évidemment. Je pense que ça marque aussi, ça dit aussi le goût d'une époque. Est-ce qu'aujourd'hui on ferait rentrer Gobineau dans la Pléiade? Je ne sais pas. Il se trouve qu'il y est. Non, on fait rentrer Jean d'Ormesson. Je pense que c'est amusant de voir, en fait, à mon avis, si on faisait une histoire de la date à laquelle certains livres sont entrés dans la Pléiade, ça dirait beaucoup du goût d'une époque. Ça transforme le livre en classique immédiat, et en même temps, je suis certaine qu'on peut trouver quantité d'écrivains que plus personne ne lit aujourd'hui et dont on aurait du mal à dire que ce sont des classiques.
À l'inverse, en fait, c'est assez drôle aussi de constater ceux qui sont retirés, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont pas réédités, évidemment, faute de vente notamment, et qui représentait une littérature française, notamment Agrippa d'Aubigné, ça s'est arrêté l'année dernière, je crois, et Benjamin Constant.
Ah oui, ça va revenir, Benjamin Constant, ça reviendra forcément. Et vous les rangez à part dans vos bibliothèques, les Pléiades, ou pas?
Alors, ouais. C'est la grande question.
Oui, moi aussi, hein.
Moi non.
Ah, moi non plus. Non.
Mais vous êtes tellement chic.
Non.
Alors, comme moi, Elisabeth Franck-Dumas,
vous êtes très chic. Il y a quand même quelque chose que j'ai trouvé en préparant un petit peu cette discussion et que j'ai envie de partager avec vous, parce qu'on a parlé des auteurs qui ont tous fait des pieds et des mains pour rentrer dans la Pléiade. Ils sont nombreux, même des auteurs qui ont refusé des récompenses autrement plus prestigieuses. Il y en a un qui ne voulait pas entrer dans la Pléiade et qui y est entré, c'est Henri Michaux. Oui. Je ne sais pas si c'est à ça que vous pensiez, Elisabeth, parce que vous me regardez en souriant. Je vous lis son explication des raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas y rentrer. La raison majeure est qu'il s'agit dans les volumes de cette prestigieuse collection d'un véritable dossier où l'on se trouve enfermé. Une des impressions les plus odieuses que je puisse avoir et contre laquelle j'ai lutté ma vie durant. Me libérer de quantité de pages d'autrefois, retrancher, réduire au lieu de rassembler, voilà qui serait mon idéal au lieu de l'étalement de tous mes textes qui à coup sûr me dégoûterait et à brève échéance me paralyserait.
Oui, parce que Michaud, il développe ça sur la plasticité de l'œuvre, la possibilité de revenir, de réécrire et de surtout pas effectivement figer. Donc ça, c'est vrai que c'est une réponse magnifique. Mais il y a aussi dans la Pléiade des titres à part, quoi. Le théâtre élisabétain qui va sortir ça, si ce n'est la Pléiade, avec on a des pièces dont on a entendu parler, mais d'autres dont on ignore absolument l'existence. Un appareil critique formidable. Je rappelle aussi la très belle édition de Claude Lévi-Strauss au moment de son centenaire. C'était absolument remarquable d'intelligence et d'études. Et on a ça aussi dans la Pléiade. Il n'y a pas que Jean d'Ormesson. Mais l'histoire aussi de Jean d'Ormesson, rien de chemin à l'expliquer, c'est que ça fait quand même des années qu'il donne ses livres à sa fille pour les publier, que donc du coup Gallimard, ils n'en avaient plus. Donc c'est une façon de retrouver
un peu la
carotte, de bons chiffres de vente aussi. Il y a beaucoup de raisons, vous voulez rajouter, Lucille?
Non, en fait, la seule manière de ne pas d'être sûr que son œuvre ne soit pas publiée à la Pléiade, c'est de l'inscrire dans son testament. Sinon, c'est une négociation avec les éditeurs. Donc par exemple, Beckett n'est pas à la Pléiade, alors que la Pléiade attend depuis des années. Apparemment, ça pourrait se faire parce que Minuit bloque bloquent les droits. Donc il y a des conflits, voilà, il y a des conflits, mais après qui sont entre éditeurs.
Mais du coup, Gallimard fait une remarquable publication, des écrits, des journaux, de la correspondance de Samuel Beckett. Il y a un nouveau volume qui est paru récemment, c'est absolument passionnant. Et puis, on n'a pas parlé, mais ce que certains considèrent comme la Pléiade du pauvre, c'est-à-dire Quarto. Moi, j'adore la collection Quarto, qui est absolument formidable. Mais pour certains, c'est presque une vexation d'être en Quarto, parce que ça veut dire qu'on n'est pas en Pléiade.
Jean d'Ormesson, toujours lui, ne veut surtout pas être en Quarto. Ça aurait été
indigne. Ouais. Moi, je trouve ça génial, Quarto,
Pour voyager, pour tout.
Parce que là, pour le coup, eux, ils ont... les Pléiades s'abîment beaucoup quand on y passe vraiment du temps dessus. Les Quarto, c'est absolument inusable. Bon, du coup, on parle de Pléiades, on fait la pub de Quarto, mais remarquez, c'est la même maison, donc c'est pas très grave. Gallimard ne pourra pas nous en vouloir, et quand bien même, on s'en ficherait un peu, surtout qu'on va parler d'un livre de Gallimard dans peu de temps après avoir refermé les portes du petit salon.